Mes très chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler des tentations et des consolations de Jésus à Gethsémani. Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus inquiets. En effet, dans le monde, les attentats se multiplient et la France n'est pas épargnée. Les responsables, hommes politiques et responsables religieux, sont forcément au courant. Mais curieusement, tous se taisent, car font-ils savoir, ils ne veulent pas que la haine s'installe dans notre pays. Éviter que la haine s'installe, prêcher l'amour que Jésus nous demande, essayer de rassembler les hommes des religions concernées, c'est très bien. Mais ne faudrait-il pas maintenant qu'au moins les évêques commencent à parler et à rappeler aux catholiques qu'ils doivent être prudents lorsqu'ils sont amenés à rencontrer des musulmans? Et cela pour essayer de comprendre ce qui les fait agir si violemment et les conduit à tuer les chrétiens, les juifs et les athées. Très peu parmi les personnes que j'ai interrogées connaissent la vérité de l'islam. Si peu de personnes ont lu le Coran. Aussi, ces personnes réagissent-elles face aux attentats à la manière des chrétiens fidèles à Dieu qui demandent de ne pas tuer son prochain. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de musulmans non seulement tuent, mais agissent avec une grande cruauté. Pourquoi ? Certes, le Coran demande à ses fidèles de tuer les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans. Mais pourquoi ? Pour essayer de comprendre au moins un peu l'angoisse qui étreint nos sociétés occidentales, nous allons de nouveau contempler Jésus et ses réactions dans les tentations. Contemplons Jésus. Depuis quelques mois, Jésus et ses apôtres vivent ensemble. Les enseignements de Jésus se font de plus en plus denses et un jour, il demande à ses disciples « Pour vous, qui suis-je ? » Et Pierre répond instantanément « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus félicite Pierre, car ce n'est pas lui qui a trouvé cela tout seul, mais c'est le Père qui le lui a révélé. Pourtant, quelques jours plus tard, Jésus fait une première annonce de sa passion, et Pierre explose. « Non, Seigneur, c'est pas possible, cela n'arrivera pas. » Curieusement, Jésus change d'attitude et devient presque agressif. « Arrière, Satan, tu mets un obstacle !» Pierre pleurera longuement, mais Jésus n'interviendra pas. Les jours passent, Jésus multiplie les miracles et nombreux sont ses disciples qui, avec la foule, veulent le faire roi. Par contre, le Sanhédrin commence à avoir peur et cherche déjà à trouver un prétexte pour le faire arrêter. Jésus poursuit sa mission, mais plus discrètement, et finit par se réfugier hors de Judée. L'heure n'est pas encore venue. Bientôt, Jésus descend à Jérusalem pour y être arrêté par les méchants, souffrir beaucoup, mais ressusciter le troisième jour. Ses apôtres ne comprennent rien, mais se taisent. Ils pensent certainement qu'il s'agit d'une parabole que Jésus leur expliquera bientôt, car Jésus leur explique toujours les paraboles. Pourtant, Jésus insiste et il pense en lui-même. « Oui, j'ai beaucoup de choses à faire à Jérusalem. D'abord, entrer glorieux dans la ville bénie, multiplier mes enseignements, ressusciter Lazare qui va bientôt mourir, puis être rejeté par les chefs du peuple qui me condamneront et me feront crucifier. » Chaque fois que Jésus parle de sa passion, c'est, chez les apôtres, la consternation ou le refus. Jésus sait que Satan est là, qui ferme l'esprit de ses apôtres. À chaque fois, Jésus le rejette vivement, mais il sait que la tentation demeure. Mais la volonté de Dieu son Père, il la fera. Jésus peut alors continuer sa route, sa mission, en toute sérénité. Quelques jours ont passé. Nous sommes à Jérusalem, le jeudi saint. Le cœur de Jésus déborde d'amour, car son heure est venue. Dans quelques heures, il sera glorifié. Mais avant, il doit faire le nécessaire pour consoler ses disciples et rester avec eux jusqu'à la fin du monde. Jésus contemple ses apôtres, ces pauvres hommes pleins de bonne volonté, mais si fragiles, si faibles devant les tentations toujours perfides de l'ennemi. Jésus, pendant toute sa vie humaine, a vécu toutes les difficultés quotidiennes d'une vie d'homme. Il en a connu toutes les générosités, toutes les capacités d'aimance, mais aussi toutes les contradictions et tous les obstacles constamment provoqués par celui qui veut tuer l'homme. Jésus veut délivrer ces hommes qu'il aime tant et faire en sorte qu'ils soient toujours protégés contre Satan et tous ses suppôts. Jésus doit partir. Jésus doit mourir dans des conditions atroces. C'est la volonté des méchants que Dieu permet, car tous les hommes sont libres, bénéficiant du libre arbitre qu'il leur a donné. Jésus aime ses apôtres, et tous les hommes autant que Dieu peut aimer, c'est-à-dire infiniment. Jésus doit partir, c'est l'intérêt de ses disciples, pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit. Mais il veut rester avec eux, toujours. Alors Jésus va célébrer la Pâque de l'Ancienne Alliance, puis il établira la Nouvelle Alliance en son sang. Il est temps. Le cœur de Jésus devient cœur eucharistique. Son corps livré, le voici dans ce pain qu'il partage. Son sang versé, il est là dans ce vin. Les apôtres devront célébrer ce sacrement en mémoire de lui, pour le rendre présent et vivant sur toute la terre jusqu'à la fin des temps. Ce sacrement, c'est son plus grand miracle, son plus grand mystère aussi. Maintenant, Jésus peut aller vers sa passion, Jésus peut aller à Gethsémani. Jésus est à Gethsémani, avec les 12. Il sait que Satan rôde autour de chacun d'entre eux et qu'ils sont en danger, ensemble et individuellement. Aussi les prévient-il, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Jésus s'éloigne un peu. Il aime prier seul, intimement uni au Père. Ce soir, Jésus a du mal à retrouver le Père, car trop de pensées l'accablent. Qu'en quelques heures, il sera parti. Ses apôtres seront tous dispersés. Judas l'aura trahi, et même Pierre l'aura renié. Voici que surgissent des visions atroces. Que va devenir ma pauvre maman? Et mon Église qui sera tellement persécutée? Souvent même elle me reniera, elle aussi. Tant d'hérésies, tant de divisions la broieront, l'écartèleront. Jésus soudain pleure. Vraiment, sa vie aurait été un échec total. Que restera-t-il de ses enseignements, de son amour? Bientôt, on va venir l'arrêter, le flageller, le couronner d'épines, puis on le crucifiera. Quel échec, la vie du Fils de l'homme! Vraiment, Jésus n'en peut plus. Il sue le sang et il pleure. Il crie même, « non, Père, pas ça !» La douleur de Jésus est si intense qu'il s'effondre et Satan ricane de plus en plus fort. Oui, quel échec ta vie! Et toi qui te croyais le Fils de Dieu? Mais tu n'es qu'un pauvre esclave que l'on va crucifier. Ton Église? Quelle Église? Tes enseignements? Personne ne les suivra car ils ne sont qu'utopie. Tes exemples? On s'en moquera bien. Ton amour? Mais les hommes préfèrent la haine et l'argent et le sexe et la réussite coûte que coûte. Les hommes me préfèrent à tout, moi, Lucifer, et ils se soucient bien peu de toi et de tes paroles sans intérêt. Qui veut être pauvre? Qui saura garder un cœur pur? Qui pardonnera à son prochain? Qui aimera son prochain comme lui-même? Pauvre homme, par moments tu me fais de la peine. Les bras et le front de Jésus se couvrent de sang. Jésus, allongé sur le sol, se relève un peu et murmure. « Père, que ta volonté soit faite !» Soudain, une lumière éclaire Gethsémani. Satan se sauve comme terrifié. Jésus s'agenouille et un ange, portant une merveilleuse coupe, s'approche. « Seigneur, c'est le Père qui m'envoie pour fortifier ta nature humaine. Qu'elle ne craigne rien, car ta nature divine te soutiendra tout au long de l'épreuve que tu dois traverser. » Car cette épreuve, toi, au sein de la Sainte Trinité, et le Père, vous l'avez désiré pour sauver tous les hommes. D'ailleurs, regarde. L'ange incline un peu la coupe, et Jésus voit tous les saints qui naîtront de son sacrifice, éternellement renouvelés dans son Eucharistie. Jésus voit tous les peuples qui seront à l'abri des démons, réfugiés dans son cœur eucharistique. Jésus voit la joie de tous les martyrs qui l'acclameront après avoir traversé leur épreuve. Jésus, vois les innombrables saints qui, grâce à son Esprit Saint, seront à lui et au Père pour l'éternité. Jésus rend grâce et boit la coupe que l'ange maintenant lui confie. Jésus se lève, remet un peu d'ordre dans ses vêtements et essuie le sang et la sueur de ses bras et de son front. Un bruit se fait entendre. C'est Judas qui arrive. C'est l'heure. Jésus doit fortifier ses trois amis qui dorment ou, comme Jean, font semblant de dormir. Car Jésus sait que Jean a vu tout ce qui vient de se passer. En effet, si Jean n'avait pas vu cette agonie de Jésus à Gethsémani, comment aurait-il pu nous la raconter? Mais Judas est là, qui s'approche de Jésus et lui donne un baiser en disant « Salut, maître !» La passion de Jésus vient de commencer.